Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 23 avril 2022. Pendant le salon du véhicule électrique de Montréal, où Germain et moi allons évidemment passer pas mal de temps, comme plusieurs membres du Guide de l'auto, Germain, on va commencer par parler du salon du véhicule électrique parce que il y a beaucoup d'attractions cette fin de semaine, notamment plusieurs véhicules qui sont très attendus.
Oui, surtout des véhicules électriques. Oui. D'abord, merci de ne pas m'avoir imité cette semaine. C'est une belle attention de ta part. Alors oui, je vous ai écouté la
toujours semaine. Toujours un peu plus gênant quand le principal intéressé est présent.
Absolument, absolument.
Alors pour ceux qui se demandent quel niveau de qualité était mon imitation, je vous invite à aller écouter l'émission de la semaine passée.
C'était entre nul et lamentable, mais bon, ça, c'est juste mon avis. Okay. Alors, oui, revenons au salon du véhicule électrique.
Je ne vois pas de quoi tu parles.
Hé! Hey! Je suis là, là!
C'est ça.
C'est pas Fred, là, c'est moi. Okay. C'est le vrai. Alors, oui, revenons avec le salon du véhicule électrique qui a lieu au Stade olympique de Montréal, 22, 23, 24 avril. Donc, essentiellement, vendredi, samedi et dimanche. On se rappelle qu'il y avait eu un salon du véhicule électrique, toujours au Stade olympique. À l'automne de l'année dernière, ouais, on avait eu une espèce de petite fenêtre d'opportunité entre la 27e et la 72e vague de la COVID.
Et ça avait très bien marché.
Ça avait très bien marché, malgré quelques absents en termes d'attractions, en termes de véhicules électriques attendus.
Mais notamment, oui, notamment General Motors, oui, qui avait fait l'erreur, oui, littéralement, de ne pas se présenter, et on les avait sévèrement critiqués pour ça.
Parce que ça survenait juste après le début du rappel de la Chevrolet Bolt et de ses batteries, et je pense qu'on avait un peu honte d'aller à la rencontre du public, ouais, mais pourtant ça aurait été un très bel exercice de relations publiques pour justement calmer les gens qui avaient peut-être laissé un dépôt ou qui étaient sur une liste d'attente.
Mais bon, on avait à Montréal le Hummer, on avait la plateforme Ultium, on avait plein de véhicules qui auraient pu devenir l'attraction principale, et on avait décidé, en fait, il y a quelqu'un à Oshawa, quelque part dans un bureau, qui avait décidé de bouder le salon. Erreur monumentale. Je voulais le mentionner une deuxième fois, juste, oui, pour taper sur le clou un peu. Mais la bonne, oui, nouvelle, c'est qu'on va être là avec.
Le principe d'une erreur, hein, c'est de ne pas la répéter.
Ouais, voilà.
Et on ne la répétera pas chez GM, donc on sera là, effectivement, bon, avec le duo de Chevrolet Bolt, avec le GMC Hummer électrique, et la Cadillac Lyriq sera là également.
On aura la plateforme Ultium aussi.
Oui, effectivement. Donc, l'espèce de squelette qui servira de base pour bon nombre de futurs véhicules électriques. Chez BMW.
Incluant les modèles Honda et Acura.
Oui.
On peut le mentionner accessoirement.
Je ne sais pas si on va séparer les coûts du kiosque avec Honda.
Non,
enfin,
je ne penserais pas.
Sinon, chez BMW, ben, on aura le iX, ouais, qui sera présent, la i4 également, une version affichable du BMW X3. Ça, c'est peut-être un peu moins intéressant, mais bon, en tout cas, chez Ford, on aura le F-150 Lightning, véhicule très, très, très attendu. Et notre collègue Frédéric Mercier, qui me remplaçait la semaine dernière, l'a aperçu en route vers le salon du véhicule,
ah bon,
électrique de Montréal. Alors, c'était comme une première, un premier aperçu du véhicule. Toujours chez Ford, il y aura le Transit EV. On s'en était glissé un petit mot il y a deux semaines.
Parce qu'on a commencé à en livrer au Québec, ces véhicules.
On a commencé à en livrer, mais on ne l'a pas dit à personne. C'est un grand mystère autour de ce véhicule-là. Un véhicule qui est quand même un véhicule tournant, à mon avis,
ouais,
parce que on a toujours été très conservateurs dans les fourgons commerciaux américains. Et ben là, on arrive avec quelque chose d'électrique. Puis, on se rappelle qu'on a le programme éco-camionnage aussi qui arrive, mm-hmm, en jeu. Bref, un véhicule important à mes yeux, le Transit électrique. On aura bien entendu le duo Subaru Solterra et Toyota BZ4X. Et mon petit doigt me dit que ça va être deux véhicules qui vont être très, très convoités pendant ce salon-là. Il y aura la Polestar 2 qui sera là, bien entendu.
Imperial Motors sera de retour aussi avec une version mise à jour de la ET5.
Oui.
Étudier actuellement la possibilité d'amener une version encore plus luxueuse que ce qu'on avait initialement présenté, bien que le véhicule ne soit toujours pas homologué.
C'est long.
Et c'est des virgules et des cédilles et des anecdotes qui font en sorte que le véhicule n'est pas officiellement homologué. Mais on sait que le véhicule est actuellement en test continu du côté de Blainville au circuit de PMG sur le site pour qu'on puisse obtenir finalement l'homologation. Et il faudra faire quelques crash tests supplémentaires.
Ça va faire mal. Hein?
Ça fait mal au portefeuille de l'entreprise actuellement qui m'a glissé un mot à ce sujet-là. Et je suis bien content de vous dire qu'on pourra vous présenter l'essai complet de ce véhicule-là à l'émission du Guide de l'Auto dans quelques semaines parce qu'on aura la chance de conduire un véhicule de pré-production à plus long terme. Alors ça, c'est à suivre très bientôt.
Parlant de l'émission du Guide de l'Auto, je te laisse faire la mention pour le véhicule vedette de l'émission de ce samedi à 11h30.
Oui, qui n'est pas exactement un véhicule électrique.
Non, mais c'est correct parce qu'on est justement à cette espèce de croisée des chemins où on a des extrêmes autant essence qu'électrique finalement.
Et c'est un Ford Bronco. En fait, on a mis à l'essai la version deux portes à boîte manuelle du Ford Bronco en plein hiver sur le circuit hors-route de Mécaglisse, qui n'est pas un circuit hors-route très accidenté, mais ça nous permettait de se retrouver dans un environnement absolument génial pour mettre à l'essai le Bronco et voir ce que ce véhicule-là avait dans le ventre. Puis la question qu'on se pose, dans le fond, à l'émission du Guide de l'Auto, Gabriel et moi, c'est la suivante. Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour rivaliser avec le Jeep Wrangler? Ce à quoi Christian Meunier, qui est le président de Jeep, a répondu, ben, sais-tu quoi, le Bronco, ça nous fait pas peur. Ça, c'est quelque chose qu'il t'avait mentionné à toi la semaine dernière.
Oui, effectivement, ben, si j'étais absent la semaine dernière, c'est parce que j'étais dans un événement Jeep à Moab, en Utah, et j'ai eu la chance de m'entretenir avec le président global de Jeep, qui est Christian Meunier, et quand est venu le temps de parler du Bronco, ben, il a pas mâché ses mots, il m'a carrément dit que ce véhicule-là, ben, ça ne lui faisait pas peur et surtout que ça allait amener la marque Jeep à être meilleure que jamais. Alors, parce que, bon...
Il n'y a jamais eu de concurrence. En fait, en 30 ans, il n'y a jamais eu de véritable concurrence.
Il y a d'autres véhicules en route, comme le Toyota 4Runner, par exemple. Mais bon, quand un consommateur veut s'acheter un Wrangler, ben, il s'achète un Wrangler et ça s'arrête là.
Ouais.
Alors, quand on est tout seul sur notre île, ben, peut-être que des fois, on peut avoir tendance à être conservateur. Mais là, quand on voit un concurrent débarquer, c'est certain que ça incite peut-être à se renouveler ou à innover, mais le Wrangler a une bonne longueur d'avance, j'ai l'impression.
Alors on va présenter le Ford Bronco. Il sera question de conduite autonome aussi avec
Mathieu Roy.
Bref, alors, c'est une émission à pas manquer, samedi 11h30, bien sûr, en fait, dans quelques instants, mm-hmm. parce que je vais faire assemblant actuellement qu'on est en direct.
On est enregistré un petit peu à l'avance.
C'est ça, exactement. J'aurais eu la chance, moi, au cours de la semaine aussi, d'aller mettre à l'essai le kiosque portage. Donc, on reviendra sur le site du Guide de l'Auto la semaine prochaine et vous pourrez le voir en reportage au Guide de l'Auto dans quelques semaines aussi. Alors, on travaille pas mal, je veux pas dire à la dernière minute, mais on essaie des véhicules.
Ce sont des semaines
les plus
bien
récents. Oui, c'est des semaines bien remplies pour présenter du contenu très à jour au Guide de l'Auto, où on aura aussi la chance de vous présenter un reportage sur le F-150 Lightning, parce que bien que je ne serai pas le premier à le conduire, parce qu'on l'a vu dans les rues de Montréal récemment, ben on aura eu la chance de le conduire lui aussi. Alors, tout ça va suivre à l'émission d'ici quelques semaines, à ne pas manquer. Mais au Stade olympique, je veux revenir sur le salon du véhicule électrique. Ben on aura notre propre kiosque du Guide de l'Auto sur place. Toute l'équipe du Guide de l'Auto sera présente à un moment ou à un autre durant le week-end. Moi, j'y ferai des conférences sur la non-disponibilité des véhicules électriques sur le marché actuel.
C'est un véritable fléau, là.
en expliquant un peu pourquoi, qu'est-ce qui se passe en ce moment auprès des constructeurs automobiles, des concessionnaires. Bon, évidemment, je serai aussi présent au kiosque de pièces d'auto super et de l'atelier branché, qui est un partenaire de l'émission du Guide de l'auto, pour faire découvrir différents trucs à la clientèle, aux experts aussi. On aura une Chevrolet Bolt sur place, complètement démontée. Vous pourrez avoir accès à une batterie de Bolt qui, je vous le rassure, est débranchée, donc pas de risque d'incendie, bien que ce soit une blague, parce que dans les faits, il y aura eu 12 problèmes répertoriés avec la Chevrolet Bolt à l'échelle nord-américaine seulement. Donc, est-ce qu'on a fait un gros tapage qui a coûté plus de 2 milliards de dollars à LG pour pas grand-chose? À suivre. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a plus de Hyundai Kona que de Chevrolet Bolt qui ont pris feu. Et actuellement, ben, on sait que c'est Volkswagen qui se pose actuellement de sérieuses questions.
Parce que le fournisseur de batterie du ID4, ben, c'est LG aussi. Là.
Et c'est la même technologie. Oups. C'est bâti de la même façon. Alors, est-ce qu'il y a des risques à ce niveau-là aussi? Est-ce que ça pourrait expliquer les retards de livraison de ces véhicules-là? Bref, on peut se poser des questions. Mais en découvrant cette Chevrolet Bolt toute déshabillée que j'ai pu apercevoir cette semaine, j'ai eu quelques réponses supplémentaires sur les causes de ces incendies qui ont eu lieu dans des Bolt. Et grosso modo, ce sont des cellules de batterie qui sont glissées à l'intérieur des socles, dans lesquelles se trouve une feuille métallique, laquelle peut plier ou bouger légèrement, ce qui cause un court-circuit et qui peut causer un risque d'incendie. Et s'il y a un court-circuit dans une batterie, ben, besoin de te dire que ça se propage assez rapidement.
Oui. Alors, c'est pas une bonne chose.
C'est pas une bonne chose, mais c'est des cas vraiment, vraiment isolés. Ce qui est très drôle, parce que c'est justement...
Un problème d'isolation.
C'est un problème d'isolation de la batterie qui cause un incendie. Alors, voilà.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation. Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Cette semaine, Germain, on réalise un doublé Jeep et un doublé MI parce que tu as conduit du côté de l'Utah un Jeep assez particulier, alors que moi, j'ai repris pour une seconde fois le volant du Jeep Grand Wagoneer, cette fois pour le mettre à l'essai à l'émission du Guide de l'auto en compagnie de Gabriel Gélina. Je te laisse d'abord nous parler de ce Wrangler complètement flyé, qui, pour moi, est en quelque sorte peut-être un rival du Land Rover Defender à moteur 8 cylindres qu'on peut obtenir en très petite série. Mais là, c'est pas un rival, mais tu sais, c'est un petit peu la même formule. Donc, un gros moteur V8 de 6,4 litres sous le capot d'un Jeep Wrangler. Ça doit être un peu débalancé comme conduite.
Ben, j'ai l'impression que ce sera la dernière fois qu'un segment complet sera consacré à deux Jeeps à moteur V8. Ça ne pourra plus se produire à l'avenir. Mais,
et moi qui te parlais la semaine passée, alors tu n'étais pas là, mais je parlais de la Cadillac CT5V Blackwing à boîte manuelle. Ça n'est une autre qui était la dernière de sa race. Probablement que le Wrangler 392, c'est le cas aussi. Là.
Oui, on produit ce genre de véhicule-là parce qu'on peut encore le faire malgré certaines limitations. On en a vendu quelques-uns en 2021 aux États-Unis, mais le marché canadien en a été privé et on arrive pour 2022 avec des Wrangler 392 qui vont quand même être livrés au compte-gouttes. Là, il n'y aura pas une très grande diffusion. Ouais. J'ai parlé avec un concessionnaire qui m'a dit que le siège social leur offrait quasiment comme un cadeau.
Un bonbon.
Oui, voilà. Voyons-le comme ça, parce que non, la diffusion sera très limitée. Tu me demandais si c'était débalancé. La réponse est tout à fait simple. Oui. Donc, c'est beaucoup de poids à l'avant pour le Wrangler. Bon, c'est une mécanique qui est assez lourde à la base, mais heureusement, on a eu la bonne idée de planter cette mécanique-là dans un Wrangler Unlimited, donc une version à empattement plus longue.
Oui, parce que là, un deux portes...
Oui, parce que, bon, tu mentionnais le Land Rover Defender, qui, lui, peut être livré avec le moteur V8, avec l'empattement court. Et ça doit être, franchement, un peu trop spécial, peut-être. Ouais. Mais oui, donc c'est c'est débalancé. C'est certainement pas le meilleur Jeep qui existe. Oui, les accélérations sont foudroyantes, mais très surprenantes parce que quand on prend le volant d'un Wrangler, on ne s'attend pas à ça. On n'est pas dans cet état d'esprit.
Est-ce que le véhicule, lorsque tu accélères, est-ce que tu te bats avec le volant pour le garder en ligne droite? Est-ce que c'est instable au niveau de l'accélération?
C'est pas plus instable qu'une version avec un moteur Pentastar, par exemple.
Donc, c'est instable.
Donc, oui, ça l'est, mais ça l'est pas que ça pourrait l'être avec, avec les autres mécaniques. Mais les autres mécaniques sont nombreuses, soulignons-le.
Ouais. Il y a du choix mécanique. Là.
Oui, donc,
diesel, le 4 cylindres.
2 litres turbo.
C'est ça.
V6 3.6 et l'éco-diesel. Bref.
Plus le 4XE.
Plus le 4XE.
Plus le MI. Donc, plus on a 5 choix mécaniques.
Ah, franchement, c'est... Le Wrangler est une machine...
À imprimer de l'argent pour
Jeep. À imprimer de l'argent. Et là, bon, ça m'amène à te parler des prix du Wrangler 392. C'est plus de 100 000 $ en prix de détail suggéré. Pour te donner simplement une petite idée, quand on regarde la gamme du modèle, donc le plus haut, c'est le Unlimited Sahara High Altitude, qui est à 62 000 $ Et là, évidemment, on peut rajouter des options, mais au-dessus de tout ça, c'est la version 392 qui, elle, est plus de 100 000 $ C'est peut-être un petit peu exagéré comme
mais en
comme
même temps,
d'entrée.
Ce que je comprends, c'est qu'on a carrément pris la version américaine et on n'a pas nécessairement donné de rabais au Canada. Là.
Non.
Parce que... Je veux dire, la personne qui va se procurer ça... Moi, je n'ai vu un sur le marché de la revente au Québec à vendre récemment qui était à quelque chose comme 135 000 $
Ben voilà.
Alors, c'est... Je veux dire, c'est une pièce très, très rare. Puis celui qui va vouloir se la payer, ben, il va payer le prix qu'il faut.
Ben oui, puis voilà. On peut s'imaginer que c'est quelqu'un qui s'est acheté un TRX l'année dernière puis un Charger L4 l'autre année d'avant. Ce genre de machine un peu excessive, mais...
En même temps, on peut se demander pourquoi... Tant qu'à mettre un 392 sous le capot d'un Jeep Wrangler, pourquoi on ne l'a pas mis sous le capot d'un Jeep Gladiator?
Oui, ben peut-être que ça viendra un peu plus tard. Et si
Là, il y a comme un compteur.
Ça commence à faire tic-tac. Oui, là.
C'est ça.
La bombe va sauter. Là. Mais, et si on a mis le 6.4, pourquoi n'a-t-on pas mis le 6.2 suralimenté? Hein? Rendu là, pourquoi ne pas pousser l'exercice
un Wrangler Hellcat Red Eye?
Mais et peut-être juste en terminant, j'ai quand même parcouru plus de 350 km avec ce véhicule-là, de l'Utah jusqu'au Colorado, dans des routes de campagne, mais sur l'autoroute aussi. Je me suis rendu jusqu'au Colorado pour visiter un musée. Sur le chemin du retour, la plupart du trajet, ça a été en mode hors-route, dans de la boue, du sable et même de la neige, sans réseau cellulaire. C'était peut-être un peu prudent de ma part, je te le précise, parce que il y a rien de tout ça qui était prévu. J'avais pas une barre tendre, un verre d'eau, ni même un tournevis plate, là. Donc, c'était peut-être un peu trop aventurier. Mais bref, c'était, justement une très belle aventure. À ton tour de parler du Grand Wagoneer à moteur 6,4 litres.
Alors, moi, la première question que j'ai pour toi concernant ton Wrangler, quelle moyenne de consommation as-tu fait?
Donne-moi un instant. C'était en mille au gallon, mais...
Il faudrait faire l'exercice de comparaison.
En
là,
faisant le... Oui, je te laisse un instant pour parler du
alors moi,
Wagoneer
j'ai,
et je vais y revenir.
Sur un trajet...
Mais comme j'ai fait beaucoup d'autoroutes, c'était rien de catastrophique, là.
Alors, parce que le Grand Wagoneer, on a majoritairement roulé sur route secondaire, pour une moyenne combinée à 16,8 litres au 100.
14,5 dans mon cas, une fois
converti.
Vois,
et tu vois, j'ai trouvé que la consommation d'essence de ce véhicule-là était carrément démesurée. Et je sais qu'au moment où on faisait l'essai de ce véhicule-là, Jeep dévoilait à New York le Grand Wagoneer L avec le moteur Hurricane.
Et l'empattement allongé.
Bon, l'empattement allongé de 7 pouces, le véhicule plus long de 12 pouces. Mais ça n'avait pas un véhicule démesurément plus lourd tant que ça.
Non, mais on avait-tu vraiment besoin de ça?
Bon. On avait-tu besoin d'un Grand Wagoneer? C'est l'autre question. Mais tu vois, à 16,8 litres au 100, Jeep mentionne avec le moteur Hurricane baisser la consommation moyenne de 1,7 litres au 100, ce qui nous ramène à 15 litres, là, carrément.
Ça reste élevé, là.
Ça reste très élevé. C'est un véhicule agréable, mais c'est un véhicule qui a des lacunes au niveau de son comportement un peu, qui n'a certainement pas la précision et le raffinement d'un Cadillac Escalade.
On est dans cette fourchette de prix-là.
Ben, 130 000 $. Ouais. Et on a découvert des glitches de finition qui sont épouvantables.
Comme quoi, par exemple?
Bon, par exemple, des cuirs qui se défont sur les sièges, des boiseries qui sont mal fixées à la planche de bord.
Sur un Compass, ce sera gênant, mais là...
Puis quelques craquements à la planche de bord. Des trucs, tu sais, qui font... Bon, le véhicule qu'on a mis à l'essai avait 15 000 km, donc assez de kilomètres dans le corps pour dire que c'est un véhicule, entre guillemets, d'occasion.
Ou du moins rodé.
Rodé, c'est ça. Puis on a vu des bugs au niveau de l'affichage, au niveau des écrans. D'ailleurs, tout ce qui se trouve dans l'instrumentation, sur le plan graphique, ça fait dur, pas à peu près. On a beau avoir 7 écrans dans le véhicule, on aurait pu se forcer un peu pour avoir des illustrations, ce qui se trouve derrière le volant, qui soit un peu plus élaboré qu'un gros écran noir avec 2-3 chiffres dedans. Je pense qu'on aurait pu se forcer à ce niveau-là. Mais il en demeure pas moins que c'est immensément confortable. Ça a un aura, ce véhicule-là, et j'aime le fait que ce soit différent d'un Cadillac Escalade. Ça, c'est la grosse affaire. Mais j'ai
Parce qu'on veut rivaliser l'Escalade, mais on propose quelque chose dans le même temps un peu différent.
Ouais. Puis c'était très agréable. Vous le verrez dans quelques semaines à l'émission, mais j'ai volontairement demandé à Gabriel de prendre le volant du Grand Wagoneer, moi, me mettre côté passager, pour que lui découvre un véhicule typiquement américain et peut-être bien différent de la M4 qui aura... de la M3, pardon, qui aura conduit quelques semaines auparavant dans l'émission. C'est un monde de différence, évidemment. Puis la conclusion, tu sais, parce qu'on s'est posé la question au début de l'émission, est-ce que ce véhicule-là est capable de battre le Cadillac Escalade sur son propre terrain? Et la conclusion qu'on en a tiré à la fin de l'essai, c'est non, pas tout à fait.
On n'a pas besoin d'écouter l'émission.
Ben, oui, parce que vous allez comprendre pourquoi.
Oui, voilà.
Puis parce que ce véhicule-là a bien des qualités, mais en même temps, ça prend beaucoup d'audace pour penser qu'un Grand Wagoneer qui n'a pas d'historique de véhicule de très grand luxe, est capable d'aller battre un Cadillac Escalade sur son propre terrain ou du moins d'y faire une concurrence sérieuse. Et moi, je pense que ce que j'ai hâte de faire, j'ai pu le conduire très rapidement du côté des États-Unis, mais ce que j'ai hâte de faire, c'est d'essayer un Wagoneer. Celui qu'on va vendre à 80-85 000 avec un moteur EMI ou avec le moteur Hurricane de 420 chevaux. Ça, je pense que ça va être une formule pour moi peut-être un peu plus raisonnable qu'un Grand Wagoneer à 130 000 $, en fait 132 470 $ pour être plus précis, plus taxes, sans compter ce que ça a coûté pour faire le plein. On était à près de 160 $ pour faire le plein de ce véhicule-là après 500 km. Donc c'est 30 $ du 100 km. Pas pire, hein?
C'est assez élevé.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Germain, il y a quelques jours à peine, on dévoilait la toute dernière Ferrari à toit amovible, la 296 GTS, dans le fond, la 296 qui se découvre.
Toujours hybride, hein?
Oui, c'est ça. Et c'est tout le temps aussi excitant de voir une nouvelle Ferrari arriver sur le marché, peu importe la direction que prend ce constructeur-là. Mais je pense que c'est à partir de la Ferrari 308 qu'on a connu avec Magnum PI, c'est une voiture qui a été popularisée notamment par Magnum PI, que cette effervescence-là de cette ligne qu'on retrouve chez les Ferrari a débuté. Et on est en compagnie d'un gars qui, tiens donc, vient juste de s'en acheter la Ferrari de ses rêves, la Ferrari de son enfance, une 308 GTS 1983. Et c'est nul autre que Bertrand Godin, qui s'est payé la traite, comme on peut dire. Salut Bertrand.
Et qui réalise un rêve, j'ai l'impression.
Vraiment.
Bonjour Bertrand.
Salut les gars. Ok, oui, c'est un rêve qui se réalise, pas à peu près, je me pince.
Bon, c'est une 83?
Oui, une 83, une GTSI, donc injection Scoperta, c'est-à-dire justement découverte, donc ouais. Avec le toit qui peut s'enlever. Exactement comme tu l'as si bien dit, là, à l'époque où j'écoutais Magnum PI, pas pour voir le détective, mais juste pour voir la voiture, ouais. Là, ne serait-ce que les quelques secondes pendant l'émission.
Fait que toi, t'étais pas du genre Dukes of Hazzard, là.
Oui, j'écoutais Dukes of Hazzard aussi. Ça, c'était les
mais là, c'était pas pour le Charger, c'était pour d'autres raisons.
Oui, c'était plus pour Daisy.
Ouais, c'était pas Roscoe, en tout cas.
Ça. Non, c'est ça. Et puis, bon, cette Ferrari-là, évidemment, tu m'as mentionné que c'était une voiture dont tu rêvais depuis longtemps. Tu l'as trouvée comment?
Écoute, c'est simple. La première fois que j'ai vu cette voiture-là, je vois le gars qui m'a inspiré à faire du sport automobile, Gilles Villeneuve, à un moment donné, faire une publicité d'American Express. Et puis là, tu le vois, il est dans sa Ferrari 308 GTS. Il dit, ne partez pas sans elle. Et là, tu le vois partir avec la Ferrari, là. Hey, wow! Ouais. Là, à partir de ce moment-là, là, j'avais le poster dans ma chambre de la Ferrari 308 GTS. Puis je rêvais de ça. Puis je me souviens avec un de mes chums, Serge, on restait sur le bord de l'autoroute 20, puis souvent on regardait passer les camions. Puis on voyait des fois passer une Ferrari 308. Hey, on capotait jusqu'au jour où il y en a une qui a rentré dans la sortie puis qui est allée stationner pour aller au restaurant. Elle était immatriculée dans l'État de New York. Elle était grise. C'est probablement parce qu'ils ont manqué de peinture là, quand ils ont...
Ouais.
Parce que pour moi, une Ferrari, il faut que ça soit rouge.
Rouge, oui. Bien que la couleur officielle de Ferrari, de Scuderia, c'est jaune.
Oui.
Mais bon, oui, tout le monde les veut rouge.
Oui, tout le monde le veut rouge. Et les gens ont comme adopté le rouge mm-hmm. là, avec les années. Et la tienne, elle est rouge, d'ailleurs.
Ah, ben tout à fait. C'était ça que je voulais. Je voulais pas d'autre couleur que la couleur rouge. Et puis, j'ai toujours... Tu sais, je me suis toujours retenu sur l'achat d'une voiture de collection. Puis... J'étais là, puis je me disais, un jour, je vais avoir des opportunités. Puis l'opportunité est arrivée entre Noël, jour de l'an, Michel Gou, que j'ai eu la chance de le voir, parce que j'avais été quand même dans les émissions des Légendes de la route à l'époque.
Ouais.
Ben, je parlais avec des collectionneurs, puis on avait fait une émission aussi à l'époque, là, au début 2000, là, en 2002, qui s'appelait Passion Ferrari. Et puis, Michel m'appelle, puis il me dit, écoute, Bertrand, il dit, j'ai pensé vendre ma Ferrari ce printemps, et puis, je sais que c'est une, sinon ta voiture de rêve. Et là, j'ai dit, Michel, ça peut pas donner mieux que ça, je vais être prêt ce printemps à passer à l'acte. Et puis, il m'a ressorti, Michel, un vieux courriel de 2002, le 30 mai 2002, où je le remercie d'avoir participé à l'émission, et puis je lui dis et tout ça, lui m'invite à aller faire des tours avec sa Ferrari, puis là je lui réécris, j'ai dit en tout cas, j'ai de la place dans ma course si t'as pas de place dans la tienne. Et là c'est drôle parce que c'est cette voiture-là qui se retrouve dans ma course.
20 ans plus tard, wow.
Tellement clair. Ouais.
D'abord, c'est impressionnant que tu aies pu mettre la main sur cette voiture-là, mais c'est encore plus impressionnant qu'il y ait un gars qui ait gardé ses courriels pendant 20 ans.
Oui.
Parce que moi, je fais un ménage après un certain temps.
Le support technologique est vieillit pas toujours très bien. Et bon, parle-nous un peu de l'historique de cette voiture-là. Tu mentionnais connaître cette voiture-là depuis une vingtaine d'années, mais elle a pris naissance où, cette voiture-là? Est-ce qu'on a... Italie, mais bon, avant 2002, qu'est-ce qui s'est passé avec cette voiture-là?
Ben, en 1975, Ferrari a dévoilé la 308 GTS. Et puis c'est une voiture qui a été quand même développée avec des gars comme Niki Lauda. Et le dessin de la voiture a été créé par Pininfarina, qui est vraiment un artiste incroyable avec un coup de crayon. Et je lisais les commentaires des gens qui disaient, vous savez, quand une voiture a 40 ans et elle est toujours aussi belle, c'est parce qu'on a bien réussi. Et ça, à ce niveau-là, Ferrari voulait faire une voiture quand même abordable. parce que Ferrari, lui, son but, c'était pas de vendre des voitures, c'était de pouvoir faire de la course. Donc, on le voit bien dans le film Ford Ferrari, donc ouais. C'est quand même la différence, alors que Ford, ils ont été en course pour vendre des voitures de série. Et donc, cette voiture-là a été produite jusqu'en 1985. Donc, elle a eu quand même une période, je dirais, normale. Là. C'est pas mal ça là, qu'on voit dans l'industrie. Mais cette voiture-là, au début, était à carburateur. Et pour le marché américain, on a voulu la rendre plus écologique. Donc, on a emmené l'injection qui lui a fait perdre des chevaux vapeur. Parce que c'est pas une voiture qui est ultra puissante. Là. Ça fait à peine 220 chevaux à peu près. Là.
Mais ça pèse 1200 kilos, donc c'est pas lourd là, comme auto. Là.
C'est ça. C'est une voiture avec châssis tubulaire, avec moteur transversal arrière, qui est vraiment bien positionné là, de façon à donner un équilibre à la voiture. Mais dans mon cas, je l'ai pas acheté pour aller sur une piste pousser cette voiture-là. Je l'ai acheté vraiment comme un tableau que, bon, je vais quand même la partager parce que c'est le but. Moi, c'est ce que j'ai aimé le plus de ceux qui ont des voitures de collection. C'est des voitures qui ont une âme. C'est cette voiture-là à l'âme d'Enzo Ferrari, celle de Niki Lauda, de Gilles Villeneuve. Et donc, pour moi, ben c'est ça. C'est un grand, grand privilège. Là, ma femme me dit, pourrais-tu éliminer le compost dans le bac? Ben, j'y vais avec le plaisir, juste parce que je sais que je vais pas côté de la Ferrari dans le garage. Donc, ça change la vie.
Ben, c'est le moment de faire le ménage de ta maison, c'est parfait, ça. Ben, la voiture spécifiquement que tu as achetée, elle a été achetée neuve à Montréal. Je pense que tu me disais aussi que tu avais même encore le contrat d'origine fait main de Luigi, qui était le vendeur Ferrari de l'époque à Montréal.
Exactement. Donc, cette voiture-là a été achetée chez Luigi, là, qui était un ami d'Enzo Ferrari et qui était très, très, très sélectif. Hein. On parle souvent d'Enzo Ferrari, mais je pense que Luigi avait autant un aura légendaire parce que, paraît-il, c'était pas n'importe qui pouvait acheter une Ferrari. Même si tu avais l'argent, il fallait que tu montres énormément de respect pour la voiture, pour la marque.
Pour la marque, fallait que tu prouves que tu étais un passionné et non pas un revendeur, par exemple, ou quelque chose comme ça.
Exactement.
Ce qui est malheureusement plus le cas aujourd'hui, parce qu'on sait que maintenant, Ferrari est passé aux mains d'un groupe qui possède plusieurs marques et où c'est peut-être plus facile que jamais de se procurer une Ferrari. Là.
Ben restera, parce que cette transaction-là est encore récente, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, n'achetait pas une Ferrari
qui voulait. Exactement.
Là, il fallait se monter un dossier, si on veut. Là.
Ouais, exactement. Alors toi, tu as l'historique de cette voiture-là. Tu es le troisième propriétaire, si j'ai bien compris?
Oui, troisième propriétaire. C'est une voiture qui a à peine 38 000 km. Donc ça aussi, c'est un des critères que j'observais énormément, d'avoir une voiture qui avait peu de kilométrage, malgré le fait qu'il y a plusieurs pièces encore disponibles. Donc ça c'est fort intéressant. Mais,
à condition d'y mettre le prix, bien sûr.
Oui, mais c'est surprenant. C'est surprenant de voir que certaines pièces sont quand même très abordables. Et Ferrari, c'est ce qu'il voulait. Il voulait faire ce modèle-là pour rendre le modèle accessible. Et c'est pour ça qu'il en a fait un peu plus de 12 000 exemplaires durant toute cette période de 1975 à 1985.
Évidemment, accessible entre guillemets, là, parce que...
Ça demeure une voiture d'exception.
C'est un peu plus cher qu'une Géo Métro décapotable, là, mais
oui. Bon, on se comprend.
J'espère que tu aimes mon exemple.
Ouais, mais le plus drôle, tu sais, là, t'appelles pour les assurances avec ça, là. Puis là, ben, là, la femme, elle te demande pour quel modèle. Ferrari 308 GTS. Là, t'es super content. Là,
elle part... Bougez pas, je vous transfère. Oui, c'est ça.
Non, elle m'a dit, voulez-vous remise à neuf, valeur à neuf? Ah, j'ai dit non, elle vaut plus cher que quand elle était neuve.
Oui, c'est ça.
Donc là, c'est là, ah, OK, on tombe dans les voitures de collection.
Oui, puis c'est surprenant de voir à quel point des voitures de collection comme ça, c'est pas cher à assurer parce que il n'y a jamais de réclamation pour des véhicules comme ça.
Non,
les gens prennent soin.
Oui,
c'est ça.
Voilà, c'est l'utilisation, c'est quelques jours pendant l'été. C'est le risque est assez petit pour ça finalement là.
Ouais.
Peut-être pour le vol, mais bon, encore là, on croise les doigts. Tu nous disais bon, connaître la trace du véhicule depuis une vingtaine d'années, tu avais pu le conduire peut-être auparavant. On sait que bon, l'été tarde à arriver. On a même eu un petit peu de neige cette semaine. Est-ce que tu as eu la chance de prendre le volant avec cette voiture-là?
Bien, écoutez, je l'ai pris parce que, bon, elle est quand même encore immatriculée là, au nom de l'ancien propriétaire. Mais c'est ça. Donc, j'ai pas fait beaucoup de kilométrage. J'ai juste fait le tour de la maison avec parce que je veux vraiment attendre qu'elle soit immatriculée complètement à mon nom. Et là, ben, faut prendre un rendez-vous à la SAC. Donc, c'est un peu plus compliqué pour pouvoir faire le transfert des plaques. Mais c'est certain, ça donne bien que la météo soit pas bonne. Comme ça,
la tentation est moins grande.
Ouais, c'est ça.
Oui, disons qu'on veut pas sortir ce genre de voiture-là dans n'importe quelle condition, avec les nids de poules, avec le petit gravier qui est encore présent sur nos routes, qui peut quand même picoter facilement la peinture. Donc, c'est pour ça là, que je résiste. Mais c'est simple, juste de passer à côté, de la regarder. Je reviens à l'âge de 14 ans là, quand je la regardais sur poster et là de savoir qu'elle est dans le garage là, c'est vraiment un beau rêve d'accompli.
Tu nous disais que c'était peut-être un premier véhicule d'exception pour toi. On sait que tu as emprunté le virage électrique ces dernières années, mais est-ce que par le passé, tu as eu d'autres véhicules dignes de mention en écartant bien entendu les nombreuses monoplaces que tu as conduites?
Non, j'ai pas eu vraiment. Je suis tellement fier de ma voiture électrique parce que bon, je fais quand même 1000 km par semaine et puis ça roule tout en douceur. C'est quand même très performant. Pour moi, ça répond. Là, je le dis là, c'est pas pour tout le monde, mais pour moi, ça répond tellement à mes besoins.
Mais là, tu sais que tout ton effort environnemental avec la voiture électrique est littéralement scrappé avec ta Ferrari, là.
Ce sera pour rouler, quoi, 5000 km au maximum chaque été? La planète va être capable d'absorber ça, j'ai l'impression.
Oh oui, puis je vais être très sage là-dessus. Ça, c'est certain que c'est pas une voiture que je vais même pousser là dans ses limites. Quand on veut le faire, ben on va sur un circuit, puis on va dans des voitures beaucoup plus appropriées que ça.
Ouais.
Donc c'est vraiment une voiture pour bichonner là.
Est-ce qu'on peut imaginer te croiser peut-être dans une exposition de voitures anciennes cet été? Parce que là, bon, on parle de la voiture, t'as partagé une photo sur tes réseaux sociaux, mais j'imagine que les auditeurs ont hâte de la voir.
Ah ben c'est certain que je vais voir certaines opportunité de pouvoir aller dans des expositions de voitures anciennes, ça c'est certain, de partager cette passion-là avec les gens et aussi ben peut-être de pouvoir en partager avec des enfants qui rêvent, parce que je pense que il y a rien de plus beau que de partager des rêves avec des jeunes qui ont peut-être pas des opportunités qui leur amènent à avoir des objectifs. Peut-être pas d'avoir une voiture comme ça, peut-être dans d'autres domaines, mais de montrer que ouais. Oui, on peut arriver à nos objectifs.
On peut réaliser son rêve, peu importe la nature. Là.
Ben oui, absolument. J'ai eu, moi, la chance récemment de conduire une Ferrari 328 GTS, qui est celle qui a succédé à ce modèle-là. Et c'était une voiture qui m'a toujours fait triper également au niveau de son look, au niveau de l'aura qu'elle avait. Mais j'ai été surpris par la position de conduite. Moi, je fais 5 pieds 10, je suis pas particulièrement grand. Et j'avais presque l'impression d'être trop grand ou trop massif pour la voiture. C'est pas une bagnole dessinée pour les grandes personnes, ça c'est clair.
Il va falloir te mettre à l'huile d'olive, Antoine.
Oui, c'est ça. Je sais, Bertrand, que tu es un gabarit un petit peu plus petit que moi, mais comment tu trouves la position dans cette voiture-là? C'est particulier quand même.
Ben, c'est particulier parce que, bon, la roue avant gauche est plus rentrée dans l'habitacle. Donc, ce qui fait en sorte que le pédalier dans la 308 DTS est décalé sur la droite.
Exactement donc, comme dans un Chevrolet Astro, mais pas pour les mêmes raisons.
Ouais, ben, j'aime la comparaison. mais la sise est très couchée, donc ouais. Tu fais en sorte un peu comme dans une monoplace, t'es capable d'être quand même assez bas. C'est vrai que surtout en 83, on n'avait pas les options d'ajustement de volant télescopique, non. De pédalier ajustable ou ces choses-là. Donc, c'est certain qu'on peut le faire de façon mécanique en changeant certaines pièces dans la colonne de direction pour rapprocher ou éloigner le volant, des choses comme ça. Donc, c'est une voiture qu'on personnalise et qui, d'après moi, pour la nouvelle version, la nouvelle mouture, ben ça doit. On doit avoir plus de possibilités d'ajustement, non?
Mais ce que j'ai trouvé le plus fascinant, c'est le levier de vitesse. On dirait que c'est comme un fantasme de prendre le levier de vitesse et de le glisser dans cette grille métallique. C'est vrai pour une Ferrari plus récente, mais c'était vrai à l'époque aussi. Il y a comme quelque chose de magique,
oui.
de passer les vitesses dans une voiture comme ça, puis de sentir le levier de vitesse. Oh, c'est une relation purement mécanique, là.
En anglais, le terme, c'est « shift gate ». Je ne sais pas s'il y a un terme, si on a traduit ce terme-là, mais en tout cas, il représente très bien cette réalité.
Avec les clac-clac à chaque fois.
Ouais, exactement.
Hein, on change, on clac-clac. Mais c'est un petit peu comme dans les voitures de course. Hein. C'est très brut. C'est une voiture qui a ses petits caprices, en tout cas pour la 308 de 1983. Ouais. Où, quand les températures d'huile soient à bonne température, par exemple, tu pars en première, il faut que tu fasses première, troisième, parce que la deuxième est un petit peu ajustée. Donc, une fois que le mécanisme est monté en température, là, ben, on peut se permettre de mettre la deuxième et tout rentre dans l'ordre. C'est comme une voiture de course, c'est capricieux.
Il n'en faisait pas des CVT de ces modèles-là, fait que c'est comme ça.
c'est aussi bien comme ça.
On me dit à l'oreille, Bertrand, en terminant, qu'il y a certains de tes étudiants à l'école de police qui font déjà la file pour peut-être avoir la chance de conduire ta voiture sur le circuit de l'école à Nicolet. Alors, est-ce que tu comptes amener ta Ferrari là-bas et y installer des gyrophares pour faire plaisir à tes élèves?
Non.
Peut-être pour la journée de graduation, mais ça va se résumer à ça, j'ai l'impression.
C'est rare que Bertrand dit non dans la vie.
Oui.
Fait qu'on pourra marquer la date. Bertrand aura refusé officiellement. C'est sûr que c'est différent d'un Explorer, mais on ne sait jamais. À celui qui graduera avec la plus belle note, peut-être que tu pourrais y offrir un tour. Je te mets pas de pression, là.
Non, mais regarde, je vais y penser.
OK, parfait. Puis tu m'en reparleras une autre fois. En attendant, ben félicitations pour ton achat. Bichonne-la bien et au plaisir de te recroiser sur les routes avec ta voiture de collection. Puis je me permets de te dire, en terminant, que je respecte grandement le fait que... Parce que moi, je vais essayer de trouver un terme plus poli, là, mais je suis quelqu'un qui est un peu une tête folle. J'ai des passions pour tellement de modèles de voitures. J'en achète une, je l'ai eue, c'est correct. Je change, je la vends, j'achète autre chose. Je m'amuse comme ça. Mais de dire, il y a un modèle qui m'a fait triper toute ma vie et finalement, je mets la main dessus et je suis persuadé que c'est pas une voiture que tu vas mettre à vendre l'année prochaine. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très difficile. Là.
Mais peut-être attraperas-tu la piqûre et t'en procureras-tu une autre l'année prochaine. Ça se peut, par exemple.
Ouais, c'est ça. À suivre.
C'est une collection. C'est une collection à partir de deux, hein, on dit.
Ouais.
Je suis assez fidèle à tout ça. Et puis, c'est certain que il y a eu d'autres modèles qui m'ont vraiment mis en admiration. La Lamborghini Countach de ces années-là. Il y avait la Lotus Esprit Turbo aussi. Mais tu sais, le lien avec Colin Chapman, j'aime beaucoup la marque Lotus. Mais pour moi, Ferrari reste. Pour moi, c'était un peu comme si c'était complètement inaccessible. Et là, ben, elle est dans le garage. Puis on parlait, si vous, là, je dis ça aux auditeurs, là, vous voyez la voiture, vous me voyez, venez jaser. Ça va me faire vraiment plaisir de pouvoir parler avec les gens. Puis c'est l'autre aspect que je trouve vraiment important. C'est pas une voiture pour snobber, c'est une voiture pour partager.
Merci beaucoup de ton temps, Bertrand. Et puis, ben encore une fois, au plaisir de te recroiser cet été au volant de ton bolide. Qui sait si j'aurai pas un jour la chance de conduire la voiture de Bertrand.
Peut-être.
Peut-être, on sait pas.
Bonne route, Bertrand. Merci beaucoup.
Allô?
Oui.
Allô?
La ligne court. Ouais, là, je sais que le Bluetooth est pas bon d'une Ferrari. C'est correct. Ça. Vous êtes pardonné, M. Godin, et vous êtes libéré. Salut.
Merci beaucoup.
Bye.
Au plaisir de vous voir cet été.
Salut. Bye.
Antoine Joubert. Germain Goyer. Des vrais gars de char. Le guide de l'auto.
Antoine, prenons quelques minutes pour répondre aux questions des auditeurs. On a Claude qui est intéressé à se procurer un véhicule électrique. Or, il mentionne que le réseau de bornes de recharge le décourage et se demande pourquoi chaque réseau dispose-t-il d'une application différente et d'un mode de fonctionnement qui est lui aussi différent.
Ouais.
Il précise qu'avec sa voiture à essence, il peut payer avec sa carte de crédit, tout simplement, peu importe la bannière de la station-service.
Et il a entièrement raison. Oui. Bon, premièrement...
Et on n'est pas si pire au Québec avec le circuit électrique, parce qu'ailleurs, on a déjà une infrastructure qui est pas pire du tout, mais c'est pas le cas ailleurs. Là.
Non, c'est ça, t'as raison, le circuit électrique, c'est ce qui sauve la donne, parce que quand on commence à regarder, Electrify Canada, ChargePoint, il y a énormément de réseaux indépendants, puis là, ça te prend des abonnements pour chacun de ces trucs-là, ça a pas de bon sens, ça va prendre un abonnement un jour qui va permettre d'accéder à toutes ces bornes-là pour faciliter l'accès aux automobilistes qui sont de plus en plus nombreux. Par contre, moi, ce que je dirais, c'est vous achetez un véhicule électrique, ça vous prend une borne à la maison.
Oui.
Faut penser que le réseau de bornes de recharge est accessoire à votre utilisation quotidienne et que c'est d'abord une borne à la maison qui va vous être la plus pratique. Et même si vous êtes en condo, sachez qu'il y a des solutions pour installer des bornes de recharge dans un condo qui permet...
Dans des stationnements souterrains ou des stationnements extérieurs.
Exactement. D'aller chercher d'abord l'électricité uniquement sur votre système à vous et qui n'est pas partagé avec le reste. Il y a des solutions pour ça. Mais je suis d'accord avec lui, le réseau de bornes de recharge devra être uniformisé pour faciliter son utilisation. Et c'est drôle parce que un peu plus tôt dans l'émission, je vous parlais du Jeep Grand Wagoneer. On parle aussi du temps que ça prend pour recharger un véhicule électrique. Je peux me permettre de te dire que quand je faisais le plein du Jeep Grand Wagoneer, j'avais presque l'impression de faire le plein de recharger un véhicule électrique tellement c'était long. Et de regarder le compteur grimper comme ça, ça me faisait peut-être un peu plus aimer le temps d'attente nécessaire pour recharger un véhicule électrique. C'est une anecdote.
T'aurais accepté d'attendre quelques minutes et que ça coûte 10%
c'est
du prix
total. 153 $, je pense, pour avoir fait le plein de ce Jeep-là. Ça te réconcilie avec le temps d'attente du réseau, mais effectivement, pour répondre à la question de Claude, ça prend un réseau plus uniforme, mais ça prend une borne à la maison.
On a Denis qui pense acheter un Kia Sportage 2013 entièrement équipé. Il est muni d'un moteur 4 cylindres de 2 litres et suite à ses recherches sur Internet, il a constaté que ce moteur semble avoir des problèmes connus. Le véhicule a 90 000 km et il est en très bonne condition esthétique. Est-ce un bon achat quand même?
Ben, les problèmes mécaniques.
Ne connaissant
qu'on a
pas
connu,
le prix, là, de ouais, demander pour
ça.
Le véhicule.
Bon, évidemment,
là.
La chose à faire, c'est de vérifier si ce moteur-là a fait l'objet d'un remplacement ou est passé sous le rappel. Parce que, si le véhicule a son moteur d'origine et que le véhicule a 9 ans, je suis pas inquiet pour la suite. Parce que la grande majorité des problèmes qu'on a vus sur les Kia et les Hyundai, c'est des problèmes qui sont survenus dans les 2-3 premières années de leur vie. Et souvent, quand on remplaçait les moteurs de remplacement faisaient défaut aussi, mais très rapidement. Si ce véhicule-là a 9 ans, qui a son moteur d'origine et que tout va bien, je suis absolument pas inquiet. Et si le véhicule a eu droit à un remplacement mécanique, ben est-ce que ce remplacement-là a été fait récemment ou il y a plusieurs années? C'est de vérifier l'information réclamation, parce que si le moteur a été remplacé récemment, le moteur est encore sous garantie. Et si le moteur a été changé il y a 7, 8 ou 9 ans peut-être, ben moi, je suis pas inquiet non plus. Donc, c'est vraiment de voir. Moi, je serais uniquement inquiet si ça fait pas longtemps que le moteur est en place et qu'il n'a pas encore fait ses preuves. Parce que c'est ce qu'on a constaté de façon générale. Les moteurs coréens, ça brise rapidement s'il y a un défaut à y avoir, sinon ça dure très longtemps.
Merci beaucoup, Antoine. Et on rappelle que le guide de l'auto sera au Salon du véhicule électrique ce week-end, 22, 23, 24 avril 2022.
Et à la télé dans...
une demi-heure.
Une demi-heure, voilà, exactement.
Merci beaucoup. Bonne semaine.
Cube Radio.